carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour. Au Maroc comme en Tunisie, le combat des femmes pour l'égalité. Alors que la réforme du code marocain de la famille se fait attendre, les associations féministes font de l'accompagnement des mères célibataires une priorité. En Tunisie, la littérature vient raconter le sort des femmes, le poids de la famille et l'envie de liberté à travers le désastre de la maison des notables. Ce roman d'Amira Ghenim, publié chez Philippe Ray, a obtenu il y a quelques jours le prix de la littérature arabe. C'est un prix qui récompense depuis 12 ans un roman arabe traduit en français. Et Amira Ghenim est notre invitée cette semaine. Mais d'abord, rendez-vous au Maroc. Bonjour Eva Tapiero, vous signez dans le numéro 16 de la revue féministe La Déferlante une enquête intitulée « Le combat des mères célibataires ». Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ces femmes dans la société marocaine ?
Alors c'est intéressant, en fait, moi je m'intéresse aux femmes dans toutes les sociétés. Mais au Maroc, il y a des particularités, évidemment. Et en fait, il y a une telle différence entre ce qu'elles vivent, la loi, ce que la société leur renvoie, le regard à elles. En fait, que c'est assez passionnant de s'y intéresser et de s'y arrêter un peu plus. Parce que souvent, on regarde au Maroc les droits des femmes en termes légaux. Et c'est hyper important, évidemment. Mais il y a aussi ce qu'elles vivent réellement. Et les ressorts, en fait, qui leur sont proposés aussi pour sortir de certaines difficultés. Et je trouve particulièrement la sororité, en fait, qui les fait réussir à s'en sortir.
Vous suivez notamment le parcours d'une femme, Lamia, et ce que vous racontez, effectivement, de ce qu'elle subit à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte, c'est assez représentatif du sort de toutes ces mères célibataires.
Oui, parce qu'en effet, ce qu'il faut expliquer, c'est que, donc, au Maroc, les relations sexuelles hors mariage sont interdites. Un enfant qui naît de cette relation interdite, eh bien, c'est vraiment une catastrophe. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une catastrophe pour l'image de cette femme, c'est une catastrophe pour sa vie réelle. En l'occurrence, Lamia, chaque moment de sa vie va être impacté par ça. Elle peut pas louer un appartement. Dès qu'on s'en rend compte, elle est expulsée. C'est pareil au travail, c'est pareil dans sa famille. Donc, elle est vraiment indésirable tout le temps. Et à la fois, ce que je trouve assez incroyable, c'est que Lamia, quand elle tombe enceinte, elle n'est pas désespérée de devenir maman, en fait. Elle est désespérée parce qu'elle sait ce que la société va lui renvoyer. Elle est désespérée parce que son conjoint, qui lui avait promis d'être là, ne le sera pas. Mais en fait, elle est heureuse d'être maman. Et moi, j'ai été vraiment bouleversée parce que c'était une femme vraiment extrêmement forte. C'est incroyable. Elle a fait je ne sais pas combien de villes enceintes. Elle a traversé le Maroc pour essayer de s'en sortir, pour trouver du travail, pour être épaulée, etc. Enfin, c'est une puissance qui est dingue. Alors évidemment, l'avortement est interdit également. Mais il y a tout un tas de moyens d'avorter au Maroc, évidemment aussi sous le manteau. Elle aurait pu faire ce choix. Et puis non, en fait. Et c'est un sacré courage de faire ça en sachant que tout le reste de la société va être contre soi. En fait.
De préférer vivre avec cet enfant malgré le stigmate.
Ouais, le stigmate et en l'occurrence, la pauvreté. Elle sait qu'en ayant un enfant, elle va avoir encore plus de difficultés à travailler, puisqu'elle n'aura pas forcément le temps. Et qu'en plus, chaque employeur peut potentiellement la renvoyer à cause de ça.
Au Maroc, des Lamia, il y en a combien aujourd'hui ?
C'est difficile de quantifier, mais il y en a des centaines de milliers. C'est un peu comme l'avortement, c'est-à-dire que c'est une chose qui tue, puisque c'est pas censé arriver. Mais en fait, c'est une réalité quotidienne pour un grand nombre de femmes.
Sur cette question des mères célibataires, on aurait pu attendre beaucoup de la réforme du code de la famille qui est promis depuis des mois maintenant, qui n'a toujours pas été adoptée. Est-ce que là, il y a un enjeu ? Vous parliez de sororité tout à l'heure. Pour les femmes, finalement, ce n'est pas de se tourner vers l'État, ce n'est pas de se tourner vers les juridictions, c'est plutôt de se tourner vers la communauté des autres femmes.
Effectivement, il devait y avoir une réforme de la Moudawana, donc qui est le code de la famille marocain. Ça fait un an que ça a été annoncé. Pour l'instant, on n'en voit pas la couleur. Et puis, on ne sait pas quelle va être la mesure de cette réforme. Donc, est-ce que ça sera une petite réforme, une chose à minima, avec deux, trois petites choses qui ne vont pas changer vraiment la vie des femmes, ou est-ce que ça sera vraiment quelque chose de très significatif ?
Il y a eu une énorme pression des féministes marocaines avant, qui a abouti d'ailleurs à ce désir de réforme et à ces annonces de réforme à venir.
Bon, l'État est clairement défaillant sur les droits des femmes. Donc, une manière de s'organiser, c'est s'organiser dans les luttes féministes pour faire changer le droit, et c'est s'organiser dans des associations au quotidien. Et effectivement, il y a des associations, notamment celles dont je parle, mais il y en a d'autres, l'INSAF, 100% Maman, qui sont des associations qui fonctionnent quasiment à 100% avec des femmes, et qui s'occupent en effet des femmes au quotidien, des femmes avec leurs enfants. Je pense que d'une certaine manière, ça permet aussi à l'État, au gouvernement, de se dire, bon voilà, on n'a pas forcément besoin d'y mettre notre nez, puisque finalement, ça fonctionne.
L'Alliance associative pour la défense des droits des mères célibataires et leurs enfants au Maroc, créée en 2022 par les associations 100% Maman à Tanger, INSAF et Solidarité Féminine à Casablanca, avec le financement de l'Union européenne.
مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي أش كيقول القانون.
Les hommes, comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils sont stigmatisés lorsqu'ils mettent une femme enceinte et ensuite ne l'épousent pas?
Non, là je crois qu'il faut être très clair. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui sont stigmatisés, peut-être que not all men. Mais non, la société stigmatise pas les hommes, pas du tout. Tant pis, si la femme est tombée enceinte, c'est de sa faute. Elle avait qu'à pas, elle avait qu'à faire autrement. Bref, les hommes non seulement ne sont pas inquiétés de cette manière, mais ils ne sont pas inquiétés de manière légale non plus, puisque il n'y a absolument aucune obligation pour eux de s'occuper de leur enfant. Il n'y a pas de lien de filiation qui est fait avec leur enfant, même si on prouve que c'est le père de l'enfant, il a zéro obligation. C'est le lot des dominants, en fait. C'est-à-dire que quelle que soit la société et quel que soit l'endroit où on se place, c'est le lot des privilégiés. Par rapport à une femme marocaine, l'homme marocain est privilégié. Donc, il n'y a pas de raison d'aller taper à la porte pour dire « je voudrais perdre mon privilège, en fait. »
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Qu'il y ait une réforme du code de la famille?
Alors, c'est un énorme débat. Parce que pour certains, il faut que la société change plus profondément avant que la loi change. Pour d'autres, c'est l'inverse. Il faut que la loi change avant les mœurs, en gros. En réalité, moi, je pense que la société marocaine, elle est prête. C'est-à-dire qu'il y a, évidemment, c'est une société qui est conservatrice à plein de niveaux, à plein d'endroits. Mais la réalité, elle est surtout que ça devient compliqué puisque chacun se regarde. Et comme chacun se regarde, on a peur, en fait, du regard de l'autre sur soi. Mais le jour où la loi change, moi, je suis à peu près persuadée que les trois quarts des Marocains et des Marocaines, en fait, sont prêts pour ça. Et par ailleurs, il faut quand même se dire que ces lois, elles sont extrêmement, évidemment, liberticides, mais elles sont également très injustes, puisque les familles bourgeoises vont toujours s'en sortir mieux. Avorter, ça sera plus simple. Se cacher dans un grand appartement avec son enfant, ça posera moins de problèmes. On pourra l'inscrire à l'école. On n'a pas besoin de le savoir. Personne ne va venir poser des questions, etc. Donc, évidemment, c'est toujours plus compliqué pour les personnes qui sont plus défavorisées.
Merci beaucoup, Eva Tafiro. Je rappelle donc que cette enquête sur les mères célibataires au Maroc, c'est dans la revue féministe La Déferlante. Il y a aussi un très beau portrait d'Iman Relif, la boxeuse algérienne.
Merci.
Lina Guessoussi dans Carrefour du Maghreb.
Je
Le nouveau titre de l'artiste marocaine Lina Guessoussi, à retrouver et à réécouter quand vous le voulez dans le podcast de l'émission sur l'appli Pure Radio. Arrêtons-nous maintenant en Tunisie avec Amira Ghanim. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit Le désastre de la maison des notables. C'est publié aux éditions Philippe Ray. Ce livre, il entrelace les époques, les familles, le réel, la fiction. C'est une construction qui est très précise, très sophistiquée. Et résultat, quand on le lit, on est toujours un peu perdu. Et puis toujours, on se retrouve à la fin, après avoir été perdu. Comment est-ce que vous avez imaginé la construction de ce roman ?
C'est une construction en gigogne, en poupée russe, c'est-à-dire que les récits s'entremêlent et s'enchassent, permettant à chacun des personnages de livrer sa propre version des faits. En fait, j'ai trouvé cette construction très productive d'un point de vue narratif, parce qu'elle permet de tenir le lecteur en haleine, elle le captive, et c'est une manière de fragmenter la vérité sur des mini-récits qui se contredisent. Et donc, le lecteur se trouve impliqué dans le processus de la narration même parce qu'il est en train de rassembler ces mini-récits comme s'il rassemblait des pièces pour fabriquer un grand puzzle. Et donc, voilà, il y a des lecteurs qui me disent « Mais on ne fait pas que te lire, toi. On est en train d'écrire avec toi parce qu'on fait du tri sélectif. » C'est-à-dire qu'il y a des informations qui ne sont pas importantes pour le reste du texte, mais il y a des informations qu'il faut garder pour enfin les utiliser pour faire le paysage final du texte.
Alors sans dévoiler tous les secrets de ce texte, est-ce qu'on peut raconter en quelques phrases l'histoire qui est au cœur du désastre de la Maison des Notables ?
C'est un désastre qui se produit une nuit de décembre de 1935. Deux familles ont le destin qui bascule cette nuit-là. Une famille progressiste, les Rassa, et une famille plutôt rétrograde, les Naifer. Zbaïda, Rassa, l'épouse de Mohsen Naifer, reçoit une lettre d'amour venue du grand militant tunisien Taher Haddad, d'ailleurs qui est décédé la même nuit où la lettre arrive. Et voilà, le destin de Zbaïda bascule, mais ce n'est pas seulement le destin de Zbaïda, c'est le destin des deux familles. Et aussi, c'est le destin de toute la Tunisie qui bascule avec la parution du livre, du grand livre de Taher Haddad, Notre femme entre législation et islam.
Il y a du réel hein, dans ce roman imaginaire, et Taher Haddad est évidemment le personnage réel qui est dans ce livre. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup d'inavoués, il y a beaucoup d'inachevés dans ce récit. Pourquoi ?
Moi, j'adore l'inachevé. D'un point de vue esthétique, mais même aussi d'un point de vue philosophique, l'inachevé est une promesse. Dans la création artistique, quand tu as une œuvre d'art inachevée, c'est une mise en bouche, une invitation à la découverte, c'est une invitation à l'aventure. Dans la vie aussi, dans le quotidien, l'inachevé est un cachet antidépressif, est une pilule d'optimisme, une manière de se ressourcer, de se rassurer qu'on a encore le temps de terminer des choses qu'on n'a pas terminées encore. Un motif pour la persévérance,
pour l'obstination. C'est aussi une générosité, je crois. Le fait de permettre à quelqu'un d'autre de prendre la relève, de ne pas commencer de zéro, de compléter un travail déjà entamé. Dans la littérature, les secrets, les non-dits, l'inachevé est une manière d'inviter le lecteur à collaborer, à coopérer avec l'auteur pour mettre la main à la pâte, comme vous dites. C'est-à-dire quand il y a inachevé, il y a réflexion, il y a liberté, il y a richesse.
Il n'y a pas déni, il n'y a pas non-dit.
Oui, mais le non-dit, c'est pour faire le mystère. Je crois que c'est très important de garder le mystère dans une œuvre littéraire pour captiver le lecteur, pour le tenir en haleine. En tournant chaque page, il a une promesse, quelque chose qui va venir, qui va le surprendre.
C'est l'histoire de toute la Tunisie qui bascule à travers ce roman. C'est l'histoire de toute la Tunisie du XXe siècle qui tient donc dans l'histoire de deux familles.
Oui, mais j'ai toujours insisté dans mes interviews que l'histoire d'amour entre Taher El-Hadid, l'éminent militant tunisien, le seul personnage historique du roman, et Lalla Zbaïda, une fille de l'aristocratie tunisoise, finalement, cette histoire d'amour n'était qu'un prétexte pour raconter l'histoire de la Tunisie des années 30, oui, une période très importante, effervescente, très riche par les conflits, les combats politiques et idéologiques en même temps, parce que c'était la période où on a vu naître les premières luttes contre le colonialisme français. Et un débat idéologique très important, surtout concernant les questions épineuses du statut de la femme, etc. Donc c'est une période que le roman a essayé de raconter, mais pas seulement cette période des années 30, parce que finalement, ça s'étend sur presque un siècle.
Et quel écho cela trouve-t-il dans la Tunisie d'aujourd'hui ? On parle toujours du statut de la femme, par exemple, dans votre pays.
Oui, on parle toujours du statut de la femme en Tunisie, mais je ne sais pas, au fait, si la Tunisie, sans Taher El-Hadid, est-ce qu'elle aurait eu le même visage qu'elle a aujourd'hui ? C'est vrai que c'est Habib Bourguiba, le premier président de la Tunisie, qui a imposé par la force de la justice le code du statut personnel, qui a éliminé toutes sortes ou presque de discriminations envers la femme. Mais c'est surtout Taher El-Hadid, par ses idées avant-gardistes, qui a inspiré Habib Bourguiba. Maintenant, je peux dire que l'émancipation de la femme, c'est le titre de gloire de la société tunisienne, sans doute. Mais quand même, il y a beaucoup de chemin à faire. C'est-à-dire que au niveau des mentalités, c'est bien d'avoir des lois, mais c'est mieux d'intégrer l'égalité des sexes dans la mémoire collective d'un peuple. Et c'est ce que fait la littérature, c'est-à-dire qu'elle essaie d'intégrer ces choses-là chez les lecteurs.
Moi, j'ai lu le livre en français. Il faut souligner qu'il y a un très beau travail de traduction qui a été fait par Souad Labi sur ce livre pour les éditions Philippe Ray. Vous avez collaboré avec elle pour trouver ces mots français qui sonnent finalement comme des mots arabes quand on lit le texte ?
Honnêtement, pas du tout. C'est-à-dire que Souad Labiz a fait un travail remarquable, mais par elle-même. Et ce n'est pas étonnant parce que Souad Labiz est presque tunisienne aussi. C'est une franco-algérienne qui a vécu en Tunisie plus que 10 ans. Donc elle connaît à peu près tous les rouages de la Tunisie. Elle connaît les places décrites dans le roman. Elle connaît aussi le dialecte tunisien très bien. Donc elle n'a pas eu de problème à traduire l'écriture dialectale qui est aussi présente. Elle a collaboré avec Sofiane Hajej, le co-éditeur avec Philippe Ray, les éditions Barzakh, qui lui est un éditeur algérien. Donc je sais qu'ils ont fait des séances de collaboration pour ajuster du vocabulaire ou une construction. Mais c'est un travail vraiment remarquable qui a valu le prix au roman.
Vous avez lu votre texte en français ?
Pas en entier, franchement, parce que moi, je n'arrive même pas à relire en arabe. C'est-à-dire, quand je termine l'écriture, mon éditeur d'origine, il me demande de relire pour corriger les coquilles. Je n'arrive pas, parce que je ne m'aime pas, finalement. Quand je lis, je me dis, ah, j'aurais pu mettre ça au lieu de ça. Donc, la même chose. En français, je me suis assurée que c'est une très bonne traduction et je me suis contentée de ça.
Le désastre de la Maison des Notables, donc c'est aux éditions Philippe Ray. Merci beaucoup, Amira Ghanim.
Merci à vous.
Carrefour du Maghreb, à la réalisation Françoise Grelot. À bientôt.